fait.
Dévoration.
Bonjour Rensamut, vous allez bien ?
Bonjour, ça va bien.
En fait, vous avez toujours l'air d'aller bien finalement, vous avez toujours le sourire et toujours la pêche.
C'est vrai, mais c'est pas que l'air, je vais bien, je vais toujours bien.
Oui, vous êtes quelqu'un qui a toujours le sourire, une espèce de pêche, de joie de vivre permanente, un physique, enfin ce genre de physique en fait qu'on regarde et juste à les regarder, on se sent tout de suite bien, une espèce de figure reposée et c'est vrai que vous avez toujours le sourire, ça fait du bien en tout cas de vous côtoyer. Vous avez contrairement à plein d'autres cuisiniers, vous êtes bien apprêté, une jolie coiffure, des mains super propres, des ongles vernis, enfin vous êtes aussi une femme presque avant d'être une cuisinière, on a l'impression. Et vous avez juste une alliance, une montre, un simple lien en cuir, et à la Fenière, à quelques kilomètres de Lourmarin, c'est pareil, on garde sa voiture, on se met dans le parking, on arrive comme ça sur un terre-plein avec plein d'arbres, on ouvre sa portière et puis tout de suite on se sent bien. Et il y a une immense esplanade d'oliviers, une piscine, des roulottes en plein champ, un domaine de 6 hectares. Et qu'est-ce qui fait comme ça qu'on se sent bien à vous côtoyer et à être dans votre domaine ?
J'ai un caractère comme ça, j'ai un caractère plutôt joyeux. Il faut vraiment que ce soit très très difficile ou que ce soit que les difficultés s'accumulent pour que je sois touchée en fait. Sinon, j'arrive toujours à positiver pratiquement toutes les situations. Alors ça me donne une énergie effectivement qui peut vaincre des montagnes.
Et c'est vrai que dans les temps qui courent, autant dans la cuisine que le reste des domaines, ça n'a pas l'air forcément évident. Est-ce que ça vous aide, la cuisine, à vous sentir bien ?
J'aime beaucoup ça, mais parce que c'est un côté, j'aime le côté créatif, mais aussi le côté partage, le côté faire plaisir, un petit peu séduisant en même temps. J'aime, c'est peut-être le côté féminin de ma personne qui fait que j'essaie, en tout cas j'ai envie de faire plaisir et de séduire à la fois par ce côté-là de mon activité.
C'est l'atout des femmes en cuisine, la séduction ?
Ben oui, en fait, faut pas non plus que ce soit péjoratif. Hein, on fait pas n'importe quoi pour séduire, mais on est content de voir les yeux brillants de ceux à qui on fait la cuisine, et on est content de les voir joyeux à table, parce que c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est pour les rendre heureux.
Mais on essaye toujours de mettre les femmes dans une place un petit peu à part en cuisine, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et parce que c'est plus un métier masculin, visiblement. Comment vous alliez cette position de femme et de cuisine ?
Moi, je n'ai jamais trouvé... Bon, ce n'est pas un métier plus masculin que féminin. Au début, on va dire que la restauration, entre guillemets, est née, effectivement, c'était un métier un peu difficile. On faisait des gros plats dans des grosses casseroles qui étaient lourdes à porter. Le côté un peu brigade, un peu armé, un petit peu comme ça, faisait que, bon, il fallait avoir une bonne poigne pour arriver à tenir toutes les équipes. Mais je pense que on peut très bien le faire en étant une femme, et puis que nous aussi on sait porter les casseroles, et puis de toute façon on cuisine complètement différemment maintenant. On fait plutôt des petits plats au moment, en tout cas pour tout ce qui est des préparations finales, ce qui fait que bon, on n'a pas, il n'y a pas de souci. Et après, souvent on entend certaines personnes qui disent oui, mais le côté créatif, c'est les hommes, et les femmes, elles sont plus mijoteuses, entre guillemets. Moi, je pense pas. Je pense que c'est dans la personne, c'est dans chacun. Il y en a qui sont plus créatifs que d'autres. Il y en a qui sont plus exécutants, plus plus mijoteur, plus c'est chacun fait la cuisine comme il le sent. C'est vrai qu'on peut avoir, j'ai dans mes équipes moi-même des personnes plus créatives que d'autres, mais ça c'est une tournure aussi d'esprit, c'est la façon dont on a envie de s'exprimer. Hein. Alors, il y a des gens même avec la parole qui s'expriment plus mieux que d'autres, mais c'est pas plus féminin que masculin, je trouve.
Mais est-ce que vous avez eu des difficultés à vous imposer dans votre brigade, qui est quand même une grosse brigade? Vous avez pas mal de personnel.
Oui,
vous êtes combien à la fenière?
Bah, j'ai beaucoup de monde. On va dire qu'on est une quarantaine en tout. On a quand même 18 chambres d'hôtel. Alors il y a aussi les gens qui s'occupent des extérieurs, ceux qui s'occupent des chambres, ceux qui s'occupent du linge. Alors bon, ça fait une grosse équipe. On va dire que rien que pour le restaurant gastronomique, il y en a déjà à peu près 25, on va dire, hein, rien que pour s'occuper de la cuisine et du service. Mais pour ce qui est du côté par exemple, cours de ferme, notre côté un peu plus bistrot, on a seulement 8 personnes qui ont besoin d'être partagées entre le service et la cuisine.
Et comment vous faites pour vous imposer auprès de tous ces gens-là?
Ben, en fait, je me souviens pas avoir eu vraiment des difficultés. C'est vrai qu'on est deux. Hein. J'ai mon mari Guy qui s'occupe plus des relations avec le personnel. Il a un côté plus, on va dire, DRH. Et donc ça passe plus facilement. Donc j'ai toujours été quand même hyper protégée pour ça. Alors je me suis pas heurtée au problème des femmes en cuisine qui ont du mal à s'imposer, du mal à se faire respecter, du mal à être reconnues. J'ai jamais rencontré ce problème-là.
Oui, ça s'est fait finalement naturellement.
Oui, ça s'est fait naturellement et de toute façon, ça s'est fait toujours par un côté, en même temps décontracté et gentil. Je suis plus passée auprès de mes équipes par la gentillesse que par un côté, trop sévère. Mais on dit de moi que c'est pas la peine que je parle, qu'on comprend tout de suite s'il y a un souci ou si le travail est pas bien fait.
Mais d'autant que vous êtes entrée dans la cuisine, en fait, c'est une lignée de femmes au-dessus de vous. Vous êtes entrée par la cuisine par une femme. Et vous continuez un petit peu sur la même lancée, non?
Oui, je suis rentrée. Quand j'ai rencontré Guy, mon mari, effectivement, j'ai rencontré sa famille et surtout sa maman.
Oui, parce que vous faisiez des études de médecine à Marseille, en fait.
Oui, ouais, c'est ça. Je faisais mes études à la Timone. Et j'ai rencontré Guy, mais on était jeunes, on avait 20 ans. Et donc, tout doucement, j'ai laissé tomber mes études de médecine et je l'ai suivi. Et à ce moment-là, s'est créé un restaurant qui s'appelait déjà La Fenière à cette époque-là. Et la seule personne qui savait faire la cuisine, c'était ma belle-mère. Donc, c'est elle qui s'est mise en cuisine à ce moment-là. Effectivement, donc l'histoire de la restauration dans la famille Samut est née de ma belle-mère. Et après deux, trois ans, j'ai repris les rênes de cette cuisine.
En 1960, dans les années 75.
Oui, voilà, c'est ça. On a ouvert en mars 75 et j'ai repris. Bon, j'étais déjà là, mais j'ai vraiment commencé à faire la cuisine peut-être en 77.
Et donc, en fait, vous êtes arrivée à la cuisine par amour?
Oui, complètement, parce qu'en fait, c'est tout un hasard et un concours de circonstances. Le papa de Guy n'avait pas très envie, sa maman non plus sûrement, mais qu'il se lance dans la musique, parce qu'il est musicien de rock'n'roll, chanteur, guitariste, harmonica. Et il avait à ce moment-là, passionné par la musique, il avait très envie de faire plutôt une carrière. Mais comme tous les parents, comme nous aujourd'hui qui sommes parents, on se rend bien compte que c'est pas si facile de pointer son nez dans le milieu musical. Et ils avaient un petit peu peur. Alors ils lui disaient, peut-être que ça serait bien si tu trouvais autre chose. Est-ce que tu n'as pas envie d'un autre métier, etc. Il était étudiant en langues étrangères, on va dire, pour être inscrit à l'université. Et donc, à ce moment-là, il a dit si, moi j'aime beaucoup la restauration, c'est un côté un petit peu qui ressemble à la musique, il y a une scène Et une scène, il faut être tous les jours sur scène, midi et soir. Et donc, il s'est orienté vers la restauration. Son père lui dit, bon, on n'a qu'à faire un restaurant. Alors, il fallait trouver l'endroit. Tout s'est fait très rapidement. Et moi, je suis arrivée sur ces entrefaites. Donc, ce n'était pas du tout mon truc d'être devant. Je ne sais pas être devant. Par contre, je peux travailler beaucoup et fabriquer tout ça. Alors, on avait décidé. Ça s'est fait sans vraiment une réflexion. On n'a pas dit, toi, tu feras la salle, moi, je ferai la cuisine. On était tous les deux un peu dans la salle. Et puis, moi, petit à petit, j'ai présenté mes services à ma belle-mère en lui disant, écoutez, je peux vous aider, je sais rien faire, mais montrez-moi et puis je vais vous aider. Je la voyais tellement travaillant 18 heures par jour que j'étais un petit peu gênée, hein, en même temps. Parce que quand on est côté salle, en tout cas, à l'époque, on était bistrot, ben, on arrivait à 10 heures pour faire la mise en place et puis entre les deux services l'après-midi, on allait se reposer, on revenait le soir vers 18h30, donc c'était beaucoup moins prenant que la cuisine. Et donc j'ai offert mes services à ma belle-mère qui m'a petit à petit appris plein de petites choses comme ça, le week-end quand je venais ou pendant les vacances.
Une belle-mère qui était tunisienne, enfin d'origine
oui,
pied-noir donc.
Avec
une cuisine très marquée.
Cuisine tunisienne donc de ma belle-mère et la maltaise sicilienne de mon beau-père. Donc une cuisine très sud, très méditerranéenne, que c'est celle que j'ai appris à faire tout de suite en les rencontrant. En fait, c'est celle qui m'a séduite aussi. Hein. Et donc j'ai comme ça petit à petit appris avec ma belle-mère et en deux ans, trois ans, ils ont dû se dire entre eux comme ça, c'est bon, hein, la petite, elle a mordu à l'hameçon, on va pouvoir se retirer. C'est ce qui s'est passé. Tout doucement, j'ai pris un peu plus de place et par contre, je n'ai fait pendant quelques années que la cuisine que ma belle-mère m'avait apprise, c'est-à-dire une cuisine très sud. Bon, maintenant, on va dire que c'est un petit peu dans l'air du temps, c'est un petit peu dans la mode, etc. Mais c'est la seule que j'ai apprise à faire.
Mais donc, tandis que Guy, en salle, essayait de transmettre vos plats et de les vendre et de faire votre pub, en fait, et de bien vendre votre cuisine, apparemment, vous appreniez sur le tas complètement. Avec une femme qui avait déjà une certaine expérience, et vous apprenez comme ça sur le tas au fourneau.
Oui, j'ai appris tous les jours un petit peu. Et puis, quand ma belle-mère s'est complètement, on va dire, pratiquement complètement retirée, à ce moment-là, je faisais juste ce qu'elle m'avait appris, mais Guy était dithyrambique dans la salle. On aurait dit que j'étais la plus grande cuisinière du monde. Je savais juste faire ce que sa maman m'avait appris, hein. Mais en même temps, comment faire pour garder un homme mis à part de faire la cuisine aussi bien que celle que sa maman? Je pense que c'est un des meilleurs moyens.
C'est une recette parmi
c'est
d'autres.
La meilleure recette, oui.
Qu'est-ce qu'elle vous apprenait comme plat, par exemple?
J'ai appris, le premier plat que j'ai appris à faire, c'était le couscous au poisson. Ça représentait toute la Tunisie et toute l'histoire de la Tunisie. Après tout ce qui est, on va dire entre guillemets, apéritif tunisien, les mezzés, la méchouïa, c'est-à-dire une compote de tomates et poivrons grillés assaisonnés avec du citron et de l'ail et de l'huile d'olive. Après aussi de la makbouba, des briques au thon, à l'œuf, à la pomme de terre. Qu'est-ce qu'on faisait? Des carottes au cumin, des salades de fenouil à la rissa, enfin des tas de petites choses comme ça qu'on mange ou à l'apéritif ou en accompagnement des viandes et des poissons grillés au barbecue.
Est-ce qu'il y a des plats aujourd'hui à votre carte qui viennent encore de là?
Oui. Oui, oui, absolument. Parce que ils sont transformés au fil du temps, au fil des années. On les a peaufinés, on les a modernisés, on les a épurés. Et là, par exemple, sur la carte d'été qui va être en place à partir de la semaine prochaine, il y aura un plat qui est notre traduction du complet poisson de la Goulette.
C'est-à-dire?
C'était à l'époque un plat, un poisson grillé comme ça, juste grillé sur la braise, qu'on mangeait avec un œuf frit, des pommes sautées, une petite compote d'aubergine, un peu de méchouïa. Et ça se mangeait comme ça. On appelait ça complet poisson parce que parce qu'il y avait tout. C'était le plat complet. Et toutes ces bandes de jeunes qui étaient comme ça à la Goulette, ils allaient se baigner, ils passaient leur matinée à jouer au volley, à tout ça. Puis quand c'était l'heure de manger, ils mangeaient un complet poisson.
D'accord. Avant de revenir sur ce complet poisson, on va écouter un petit morceau de musique que vous avez choisi. Qu'est-ce que vous avez choisi comme auteur, compositeur ou...
J'ai choisi mon mari.
Qui est donc musicien aussi, au-delà d'être serveur.
Oui, voilà.
C'est-à-dire
que comme à un moment donné, quand même, il a eu une petite frustration de ne pas pouvoir complètement se lancer dans la musique. Depuis quelques années, il s'y est remis avec ses potes. Il a reformé le groupe qu'ils avaient fait quand ils avaient 12 ans et qu'ils étaient en 6e.
Parce qu'en fait, pour vous, la fête, la musique et la fête, ça fait vraiment partie aussi de votre univers. C'est quelque chose de très important. Sur votre site internet, il y a même une rubrique les fêtes.
Oui, complètement. On adore ça. On adore réunir beaucoup de monde. On adore faire monter la mayonnaise. On adore le côté comme ça joyeux, ambiance de nos fêtes.
On écoute Neil Young en hommage à Guy Samut, donc.
Oh,
prenne sa mute. Vous parliez donc du complet poisson. Comment on fait pour moderniser un plat, en fait? C'est vrai qu'à Omnivore, on essaye de défendre ce qu'on a dénommé la jeune cuisine. Comment on part d'une espèce de tradition, d'une cuisine familiale, enfin très ancrée sur un savoir-faire familial et à un plat gastronomique, puisque vous le servez à la Fenière au resto gastronomique, et avec une vision plus moderne qui est la vôtre.
Eh bien, le côté comme ça, compote de tomates et poivrons grillés, mes chouïa, donc, qu'on avait l'habitude de servir juste comme ça dans l'assiette, on va dire une cuillère de ce mélange, est servi dans un récipient comme un petit bol dans lequel on aura mis un jaune d'œuf de poule. On monte le blanc en neige, on va le recouvrir donc cette compote d'aubergine de poivron et le jaune d'œuf de ce blanc en neige, un petit peu comme une île flottante, et on va faire cuire juste au moment de la commande ce petit bol dans un four vapeur. Donc ça va être cuit instantanément et ça va donner une autre enfin surtout une autre présentation plus moderne, mais par contre tout ce qui est le goût qu'on avait, c'est-à-dire le mélange du poivron avec le jaune d'œuf qui est juste mollé, donnera exactement le même résultat. Après on aura le côté servir des pommes de terre frites, parce qu'ils mangeaient ça avec des pommes de terre frites. On va faire des chips de pommes de terre. Par contre on va servir la compote d'aubergine, le caviar d'aubergine au cumin, on va le servir dans des briques, mais on va dire un peu plus moins grasse, parce que ça, à l'époque on faisait quand même frire ces briques dans de l'huile comme ça. Alors là on va les badigeonner d'huile d'olive, mais on les fera au four et on leur donnera des formes de samoussa un petit peu pour que ce soit des mini briques.
Ça veut dire que donc on garde la base des ingrédients, puisque là on se trouve sur le salon Terroir 13, qui est un salon de produits avant tout. Donc on garde les produits de base et on essaye quoi, de changer les textures, changer les modes de cuisson, alléger en graisse, comme vous disiez.
C'est ça, on essaye d'accentuer la texture, c'est-à-dire le côté croustillant qu'on peut avoir d'une frite qui reste plus ou moins longtemps croustillant. Là, il faut que ce soit parfaitement croustillant. S'il y a un côté moelleux de l'œuf qui doit être légèrement coulant, un peu mollet comme ça, eh ben, il faut que ce soit toujours la perfection dans la cuisson de cet œuf.
Et la modernisation s'opère comment ?
Eh bien, on a des techniques aussi qui sont différentes. On a des fours qui sont très modernes, donc qui font plein de choses très bien pour nous. Parce que le problème, c'est surtout que les gens ne mangent pas tous en même temps. Ils vont pas tous prendre le même plat. Ils vont pas tous faire en tout cas, si même ils mangent le même plat, ils vont pas tous le manger au même moment. Alors on est obligé de bien s'équiper en techniques modernes pour arriver à imaginer approcher de temps en temps la perfection, c'est beaucoup dire, hein, mais en tout cas le très bien.
Ce que vous estimez bien en tout cas. Mais comment, pour vous le produit c'est vraiment essentiel, ça fait partie de l'essence même de votre cuisine. Vous avez ouvert en 2007 la Cour de Ferme, qui est le côté un peu bistrot de la Fenière, qui vraiment présente des plats simples comme un poulet rôti, des cannelloni, enfin des plats assez populaires dans le bon sens du terme, mais qui ne sont faits qu'à partir de très bons produits, des vins aussi. Est-ce que c'est important pour vous le produit? Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Pour moi, oui, le produit, d'abord, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est sûr que si j'ai une belle volaille de ferme, j'aurai un meilleur résultat que si j'ai un mauvais poulet sans origine. Donc, tous les produits qu'on sert à la cour de ferme sont des produits qui viennent de fournisseurs, de producteurs, d'éleveurs, de paysans qui se trouvent à moins de 100 km à la ronde. Pourquoi, vous allez me dire pourquoi 100 km à la ronde, ben, le moins loin possible en tout cas pour éviter le transport, pour éviter le gaspillage d'énergie, d'essence, de temps, et pour mettre en valeur et pour justement aider tous ces producteurs, ces fournisseurs, ces éleveurs et ces paysans à continuer à pouvoir faire leur métier à eux aussi, pour pouvoir être... Ben nous, on est quand même le dernier maillon de la chaîne, c'est important.
Et justement, ça veut dire aussi que le cuisinier, le chef, a une responsabilité écologique, une conscience écologiste. Et quelle est sa responsabilité dans le grand mot du développement durable ?
Bah, moi, je pense qu'on a une très grosse responsabilité, justement, parce que si on se dit tous que ben, c'est très important pour nous de faire des économies d'énergie, d'eau, de tout ça, pour justement à ce moment-là, ça voudra dire que faisons donc vivre les paysans qui sont autour de nous. Pourquoi aller acheter les tomates plus au sud? Pourquoi ne pas attendre qu'elles soient mûres et ne servir des tomates que pendant la saison des tomates, des aubergines pendant la saison des aubergines, ou bien des truffes quand c'est la saison des truffes? D'abord, ça nous permet de nous resituer dans l'année. D'aider tous ces éleveurs et ces paysans qui nous font le meilleur du produit. Et à ce moment-là, je pense qu'on a vraiment une grosse responsabilité. Si on fait attention à tout ça, on a une grosse responsabilité dans l'économie d'énergie et dans comment préserver la planète.
Hein. Mais est-ce que c'est pas limitatif en termes de culinaire ? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous pouvez pas faire ?
Si, oui, il y a des choses qu'on peut pas faire. Mais moi, je trouve que quand on vient en Provence, c'est bien que si on ferme les yeux et qu'on mange, on sait déjà qu'on est en Provence, rien que par le goût. On devrait même sans voir, on devrait pouvoir au goût savoir que c'est une cuisine du Sud.
Mais comment vous avez adopté cette cuisine du Sud, vous qui êtes d'origine vosgienne? Donc on a bien compris que c'était aussi par amour que vous étiez arrivé à ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous? Comment ça s'ancre sur la Méditerranée? Là, on est encore une fois sur ce grand marché sur lequel on voit de l'ail, des tomates, enfin des produits, du basilic, des herbes, des huiles d'olive. Pour quelqu'un qui vient des Vosges, comment on fait pour se réapproprier un terroir, en fait?
Eh bien, quand j'ai commencé dans la cuisine avec ma belle-mère dans les années 75, j'ai commencé à exécuter juste les recettes et je faisais uniquement la cuisine qu'elle m'avait apprise. Et puis, passionnée par ce côté créatif, ce côté on peut changer tout le temps, on peut utiliser plein de produits, etc., je me suis lancée dans une cuisine, entre guillemets, de toutes les régions. Une cuisine comme ça, pêle-mêle, mélangée, un peu comme ça, passionnée de tous les produits que je découvrais. Et puis, après 5 ans, 6 ans, j'ai eu envie... Bon, ça, c'était par un voyage que j'ai fait et où j'ai rencontré un cuisinier à l'époque dans une autre région de France qui, lui, ne faisait que des produits de sa région. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je ne veux faire des produits que de ma région, essayer de les travailler le mieux possible et de les mettre en valeur et de pouvoir comme ça avoir mon image, une image de la cuisine du Sud. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me concentrer presque uniquement sur des produits du Sud et le plus possible en tout cas de tous les produits environnants. Après, bon, évidemment, côté restaurant gastronomique, je travaille d'autres produits qui ne sont pas obligatoirement de chez nous. Il peut y avoir du bœuf qui ne vient pas d'ici, il peut y avoir du foie gras, il peut y avoir...
Mais qui ne sont pas la base même de la cuisine. Quoi.
Qui ne sont pas la base, voilà, qui peuvent être un accompagnement.
Mais est-ce que c'est un moyen de faire venir aussi, enfin de rassurer les gens, de faire venir les gens locaux dans vos restaurants? Enfin, les restaurants gastronomiques aujourd'hui ont un réel problème de clientèle et font un petit peu peur. Est-ce que ça rassure finalement de faire cette cuisine que les gens, qui parlent aux gens du,
Oui, enfin, en tout cas, du côté bistrot, les gens, bon, ils se retrouvent un petit peu comme à l'époque de la petite fenière du village. Ils ont ce côté, ça ressemble un petit peu, c'est un peu comme une fenière, cet endroit, la cour de ferme. Et bon, le côté cuisine toute simple comme ça, ça leur rappelle vraiment l'époque des années 80. Après, le côté restaurant gastronomique, en utilisant justement des produits qui sont encore plus locaux que ce qu'on a pu faire jusqu'alors, fait que on peut aussi offrir des menus à des tarifs qui sont pas des tarifs trop importants pour de la gastronomie. On peut manger chez nous à 40 euros, à 60 euros. Je trouve que pour un restaurant gastronomique, c'est très abordable.
Reine, pour terminer très vite, un petit questionnaire omnivorien. Vous me répondez du tac au tac. Votre premier souvenir gustatif ?
Des ravioles de Saint-Jacques au safran.
Qu'est-ce qui est bon ?
La cuisine du Sud.
Qui vous a donné envie de faire la cuisine ?
Mon mari et ma belle-mère.
Et quand vous cuisinez pas, qu'est-ce que vous faites ?
Je mange.
Le plat que vous n'arrivez jamais à faire ?
Oh, je sais pas. Le plat que j'arrive jamais à faire, non, il y en a pas.
Fromage ou dessert ?
Dessert.
Le plat que vous auriez aimé inventer ?
La moelle au caviar.
Reine Samut, merci beaucoup.
Oh, qu'il est mignon, qu'il est mignon. Qu'est-ce que c'est ?
Dévoration.